prendre le temps de prendre son temps. On aime bien avec Xavier se faire des petites joutes verbales. Et là, on va vous parler de deux sujets passionnants. Tout d'abord, de Cdiscount, à qui il est arrivé une aventure particulière dont les grands médias mainstream ne nous ont pas vraiment parlé. Heureusement qu'il y a Ami. Et puis juste après, nous parlerons de crypto-monnaie et de Bitcoin. Allez, c'est parti. Bon alors tiens, j'avais envie de commencer notre petite joute verbale par cette dépêche qui m'a quand même fait sourire quand je l'ai lu. Figure-toi que Cdiscount s'est fait hacker une petite partie de sa base de données.
D'accord.
Par un bonhomme qui l'a revendu sur le dark web. Bon, ça c'est assez banal. On va dire oui, mais alors bon, ça veut dire qu'ils sont pas sécurisés. Mais si, en fait, le bonhomme c'est un des cadres de Cdiscount. Un des cadres de Cdiscount qui s'est amusé à prendre un bout du fichier client de Cdiscount pour aller les revendre sur le dark web. Alors, il n'a pas revendu ça bien cher, moi, je trouve. Il a revendu ça 20 000 euros. Bon, tout ça pour ça, tout ça pour perdre sa place, hein, parce qu'a priori, il a perdu sa place. Et en plus, il s'est fait toper, comme on dit. Mais voilà, c'était la petite info, comme quoi, même dans les sociétés, il faut faire attention à son propre personnel. En plus, c'était quelqu'un d'assez haut placé et qui était...
Le directeur logistique des entrepôts.
Voilà, et qui était apprécié, quelqu'un apprécié par la boîte. Bah voilà, moi j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais bon, nous vivons sur une planète incroyable. Voilà, je voulais commencer par cette petite info qui m'a fait sourire. Et peut-être que si tu es client Cdiscount, sourire. Voilà, c'était au troisième degré que je dis sourire.
Je crois que Cdiscount n'a pas trop envie de communiquer.
Ah, mais ils n'ont pas communiqué du tout. Heureusement qu'en tant que professionnel, je lis les brèves dont les médias mainstream ne parlent absolument jamais. Ils préfèrent nous dire qu'il y a eu 3 flocons de neige. Mais en tous les cas, ça m'a surpris. Et moi, j'avais envie de le dire sur Ami, parce que c'est de la technologie. Bon, a priori, il n'y a rien d'extrêmement méchant, il n'y a pas de numéro de carte bleue, tout ça, il y a des noms, prénoms et des numéros de téléphone, donc éventuellement ça servira pour du hameçonnage. Ça me rappelle un peu ce qu'a vécu Facebook il n'y a pas longtemps, à part que Facebook c'était des gens extérieurs à Facebook qui ont piraté les numéros de téléphone, alors que là c'est quelqu'un de l'intérieur, donc c'est quand même un petit peu plus dommage. Voilà. Alors,
ce qui a été drôle et qui est quand même un peu passionnant, c'est de s'apercevoir, donc effectivement il a volé 33 millions de données clients, donc à Cdiscount. Ce qui est intéressant, c'est que là c'est clairement la police judiciaire de Bordeaux qui a fait son travail, avec justement le laboratoire d'investigation opérationnelle du numérique à la direction justement zonale de la police judiciaire. Alors ça me fait plaisir, parce que ça met en valeur nos policiers locaux aussi, hein. Et ils ont en fait piégé en fait le hacker pour les appâter en disant qu'ils voulaient acheter une centaine de comptes, et donc c'était derrière le pseudonyme Yatsu59 qu'ils ont pu justement remonter. Et en fait le nom il est très connu dans l'entreprise d'e-commerce, hein, car il savait que c'était parfaitement le nom le pseudonyme qu'utilisait le directeur logistique du site de Cesta. Donc je t'avoue que du coup il s'est fait interpeller à son domicile. Alors bien évidemment il a nié les faits, hein, en invoquant qu'il a été piraté de son mot de passe personnel qui permettait et donc il a, bon, en tout cas ça n'a pas convaincu le parquet de Bordeaux en tout cas, et du coup il est mis en examen, mais je pense qu'il sera écroué effectivement, mais c'est voilà, enfin moi en tout cas je serais Cdiscount. Alors voilà, parce que c'est très intéressant ce que tu disais, c'est que en fait quand on parle de cybercriminalité, je lisais un article de chez Oracle tout à l'heure, parce que j'étais en train de modéliser en fait une solution de protection des DOS en fait pour les entreprises, et ce qui était très intéressant dans l'article d'Oracle, c'était de dire en fait la problématique que vous avez d'abord et avant tout, c'est votre infrastructure personnelle. Et plus que de l'infrastructure personnelle, c'est aussi avant tout votre personnel. Votre sécurité, finalement, informatique, elle passe déjà par votre sécurité du personnel et des personnes que vous recrutez. Et je trouvais ça assez intéressant de montrer que, d'abord, le premier maillage, c'est de s'assurer, évidemment, de la qualité des personnes qu'on embauche. Et la deuxième, c'est évidemment de diversifier, du coup, le nombre en fait, de systèmes qui se permettent de se connecter à vous, parce que quand bien même qu'une machine se fait attaquer par une attaque DDoS, au pire des cas, ça ralentira votre système. Hein. Donc c'est pour ça que voilà. Donc je trouvais et c'est toujours mieux d'avoir un système qui ralentit vis-à-vis d'un client plutôt qu'il y ait une coupure. Une coupure, c'est ce qu'il y a de pire, hein, de toute façon. C'est comme à la radio, d'une certaine façon. On n'a pas envie qu'il y ait de coupure. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et du coup, la preuve en est, c'est que pour Cdiscount, finalement, le problème était un problème interne. Ce n'est pas un problème externe. C'est pas une attaque externe qui a pu pirater les comptes. Et je suis assez convaincu que même ce qui s'est passé pour Yahoo, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais Yahoo a eu aussi une très grosse fuite de données. Mais je te parle de ça il y a plusieurs années. Hein, mais sur C'est pas d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes toujours sur Yahoo. Oui, c'est possible, hein. Il y a peut-être des gens même sur Caramel. je fais un troll. Mais c'est vrai que, c'est avant tout un problème de sécurité interne et pas finalement le spectre de se dire tiens, il y a quelqu'un juste avec son ordinateur portable qui va pouvoir pirater les feux rouges de Paris. Je vous rassure, Anne Hidalgo, je vous rassure, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Mais on sait jamais, peut-être qu'elle aurait pu le croire. Voilà.
Mais en fait, le papier que je lisais était assez intéressant parce qu'il expliquait qu'il va falloir maintenant que les entreprises mettent en service des alarmes internes, c'est-à-dire ah, lui, il a retiré des données, est-ce qu'il a le droit de les retirer ou est-ce qu'il n'a pas le droit, pour mieux en fait surveiller le personnel, parce que peut-être que ce type-là, s'il y avait eu des alarmes mieux installées, on se serait aperçu qu'il avait extrait des données du système et qu'il n'avait aucune raison de les extraire, alors qu'une autre personne, un autre maillon de l'échelle, en extrayant des données du système, c'était légitime. En fait, c'est ce qu'expliquait le papier, qu'il allait falloir que les entreprises se fliquent plus à l'intérieur pour éviter ce genre de méfaits. C'est triste, mais voilà. C'était un peu l'explication qu'en faisait le papier. D'ailleurs, le piratage, ça va être, je pense, le grand chantier, enfin les grandes guerres qui vont arriver, parce qu'il y a eu encore un hôpital qui a été piraté très récemment, je crois que c'était aujourd'hui ou hier. D'après ce que j'ai compris, c'est un ransomware. Enfin, les données ont été cryptées, elles sont toujours là, comme expliquait le patron de l'hôpital ou un des membres de l'hôpital. Les données sont toujours là, mais elles sont inaccessibles. Ça veut dire, si tu veux tes données, tu les payes. Je crois que ça va être vraiment les grands enjeux des années à venir, parce que les cyberattaquants, qui sont souvent russes, s'en donnent à cœur joie, parce que ils sont pas trop inquiétés, on viendra pas les chercher dans leur pays, et tant qu'ils n'attaquent pas des Russes, on viendra pas les embêter chez eux. Je crois d'accord. Que tu es d'accord avec moi.
Ah mais je suis tout à fait d'accord, c'est d'ailleurs, je pense, la meilleure stratégie que Vladimir Poutine a pu avoir pour préserver en tout cas l'intégrité de ces systèmes, vu que Vladimir Poutine, comme tu l'as dit, a décidé que seuls les gens qui s'attaqueraient à la Russie seraient inquiétés par les autorités russes. Ce qu'ils font sur les autres pays ne le concerne pas. C'est pas très fair, on va dire, d'une certaine façon, pour si tu veux être allié avec lui, quoi, d'une certaine façon.
Mais après tout, c'est pas fair du tout, oui, non, ça c'est sûr.
Mais après tout, c'est ça, enfin, c'est ça, comme il dit, c'est ça, c'est la responsabilité de chaque État, et que lui, enfin, là-dessus où il est cohérent, si je peux me permettre, la cohérence qu'il a, c'est de dire, si tu regardes d'ailleurs comment toujours la Russie a voté en termes de droit de veto, la Russie a toujours dit, je ne suis pas pour l'ingérence dans les pays extérieurs. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi je m'occupe de mon pays, je m'occupe de ce qui se passe à l'intérieur de mes frontières, ce qui se passe à l'extérieur de mes frontières, ça ne me concerne pas. Tu vois ? Donc je comprends sa réflexion de dire, voilà, vous êtes hacker, vous nous attaquez, on va vous poursuivre. Vous êtes hacker, vous emmerdez qui vous voulez, c'est pas mon problème. Je peux comprendre ça. Tu vois, j'ai pas dit que c'était fair, mais je peux comprendre en soi. Lui, il dit, j'ai assez de boulot pour m'occuper de mon pays, pour pas voir ce qui se passe à côté, quoi. Voilà. Bon, c'est une position, hein, mais c'est une position que ce que je constate avec lui, c'est qu'au moins il est cohérent dans ses décisions. C'est-à-dire que voilà, il reste sur sa ligne à lui, quoi. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur, tu comprends ce que je veux dire, hein.
Oui, tout à fait.
Bon, moi, je voulais te parler d'autre chose, parce que quand même, il se passe quand même des choses assez incroyables. Incroyables.
Alors, on aime.
Je donne tout de suite un préambule, parce que... je donne tout de suite un préambule parce que, bien évidemment, le sujet dont je vais parler, c'est un sujet qui, pour moi, qui est un peu touchy, dans le sens où, si vous voulez, je tiens à préciser que si vous n'êtes pas spécialiste, si vous avez des risques aussi de vous faire avoir, oui, je vais parler des crypto-monnaies, d'accord ? Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quand même... Enfin, faut être honnête, j'ai ce matin un de mes copains qui m'a dit « Xav, tu te souviens quand je t'avais dit que j'avais pris un peu de monnaie ?» J'ai dit « Oui, oui, je sais que tu as pris une crypto-monnaie qui n'était pas le Bitcoin, hein, qui était une qui valait pas grand-chose. Hein. » En gros, elle valait moins de 100 dollars, en fait, moins de 100 dollars sur son... Il me dit, bah écoute, ça tombe bien, j'ai déjà fait 1x5 sur ma crypto-monnaie. J'ai fait, ah, bah écoute, sympa, quoi, tu vois. Et puis il me dit, puis mon pote, lui, qui avait investi 5000 euros, il est à 127 000 euros maintenant. J'ai fait, bah écoute, tant mieux, je suis super content pour toi, voilà. Et c'est vrai que j'ai regardé, là, tout d'un coup, parce que du coup, je lui ai dit, vas-y, montre-moi en live un peu les courbes. Et là, j'ai regardé la valeur en live du Bitcoin. Est-ce que tu sais combien vaut un Bitcoin aujourd'hui, mon cher Guillaume, ou pas ?
Je ne sais pas, mais je sais que ça a augmenté depuis que Musk a dit qu'on allait pouvoir s'acheter une Tesla en Bitcoin.
Exactement, exactement. Plus que ça, Tesla même a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Enfin, a investi, a acheté dans la crypto-monnaie 1,5 milliard. Évidemment, aujourd'hui, un Bitcoin vaut, au moment où je vous parle, à l'instant T, 36 529 euros. Je tiens juste à préciser que quand on regarde les courbes, je rappelle juste que, allez, on va dire, on va prendre juste un an, on est en février, allez, février 2020. Février 2020, elle était à 5 500 euros.
Voilà. Mais attends, quand le Bitcoin a été créé, il était à combien ? Il n'y a pas eu une époque où il était en gros à un euro, enfin un dollar ?
Mais c'était il y a très 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 longtemps.
Ouais, c'est ça, mais il me semble bien l'avoir entendu. Donc les tout premiers qui ont rien risqué en disant « Allez, je vais m'acheter 50 bitcoins à un dollar le Bitcoin », aujourd'hui déjà ils doivent se marrer s'ils n'ont pas perdu leur mot de passe.
Alors je pense qu'ils ont perdu leur mot de passe la plupart, ça c'est sûr. Il y a sûrement... le fondateur du Bitcoin, qui est toujours une personne anonyme, hein, personne ne sait qui a créé le Bitcoin, hein, c'est ça qui est encore plus intéressant, enfin plus stressant même à la limite, de ne pas avoir d'informations comme ça, c'est très drôle. Oui, ça existait, mais tu vois, regarde, en novembre 2015, pardon, il valait 300 euros le Bitcoin. Tu vois, alors il y a eu à un moment donné une très grosse spéculation où il est monté à 12 000, voire 13 000 euros, voire 16 000 euros en fin 2017. Ça s'est effondré après d'ailleurs, enfin effondré. Ça s'est effondré, on va dire qu'il est retombé. Il est passé de 17 000 à 2 000 euros. Donc effectivement, grosse perte. Sauf que là, les gens qui pensaient avoir perdu, bah, ils ont le sourire parce que je pense qu'ils ont dû revendre quand il valait 9 000 euros. Ils ont dû revendre à ce moment-là. Quand on regarde un peu justement la courbe, il y a eu à un moment donné pendant quand même toute l'année 2019-2020. Ça s'est stagné, hein, situé aux alentours entre, on va dire, 7 000 et 10 000 euros. Et puis là, il est passé à 36 000 euros. Alors, il a perdu un peu, là. Il est même monté encore plus haut, un peu plus tôt dans la journée. Donc ça, c'est vrai que, du coup, j'ai commencé à regarder les crypto-monnaies, parce qu'il n'y en a pas qu'une. En fait, on parle du Bitcoin, parce que c'est la plus connue. Mais en fait, il y a beaucoup plus que le Bitcoin, quoi, tu vois. Là actuellement dans celles, alors si je pourrais les classer, je sais pas si je peux les classer en celles qui valent les plus chères, bah, tu vois, t'as quand même l'Ethereum qui lui vaut 1410 euros. Tu as quoi aussi qui coûte un peu cher?
Il n'y avait pas Facebook qui devait en sortir une de crypto-monnaie?
Alors de toute façon, des crypto-monnaies, tout le monde peut en sortir.
Oui, mais il me semblait qu'il y avait Facebook qui voulait en sortir une et on n'en a plus trop entendu parler.
Écoute, je ne sais pas s'ils voulaient faire ça, mais je ne peux pas te le dire derrière ça. Je n'ai pas trop l'information. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu veux, c'est un peu aussi comme les monnaies. Ça reste de la monnaie virtuelle. C'est comme quand tu as de la monnaie virtuelle dans les free to play.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler aux gens, il faut quand même rappeler à ceux qui pour qui le mot Bitcoin ferait un peu planer, que les crypto-monnaies, en fait, ce sont des monnaies qui n'existent pas physiquement. Il n'y a pas de pièces et il n'y a pas de billets. Ce sont des monnaies virtuelles, des monnaies qui existent sous forme informatique dans des bases de données extrêmement sécurisées.
Pareil, hein, l'euro est...
Oui, mais l'euro, il a des billets et des pièces quand même. Tandis que là, les crypto-monnaies, tu ne peux pas avoir de billets en bitcoin ni de pièces. C'était ça la vraie grande différence.
Mon cher Guillaume, ça fait très 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 longtemps que l'euro est passé en monnaie scripturale.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le bitcoin, c'est une monnaie où il n'y a pas de pièces et de monnaie. Il n'y a pas du tout, jamais. Voilà, c'était ça la grande différence.
Il n'y a pas de banque centrale, ça marche sur le blockchain, en fait. Hein, c'est-à-dire que
c'est indépendant des États.
C'est indépendant des États, indépendant des banques centrales, parce que la BCE, ça dépend de l'Europe, donc c'est pas que d'un État, quoi, de ce côté-là. Mais effectivement, ça n'est pas une monnaie qui est rattachée à un État ou à un groupement d'États. C'est une monnaie qui est indépendante, qui a une volatilité extraordinaire. Je vous ai dit, en 2017, on était à 16 000 euros, elle est tombée à 2 000 euros. Vous vous rendez compte, c'est extrêmement dur de se rendre compte. Hein. Donc, alors, je tiens toujours à préciser que tant que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu. Hein. C'était la même chose, la même théorie quand les gens avaient les actions du tunnel sous la Manche. J'aurais toujours dit, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. C'est à partir du moment où vous vendez que vous perdez. Voilà. Donc, vous avez toujours entre guillemets, l'espoir que ça peut vous rapporter quelque chose. Alors, juste quand même, que je rappelle juste très brièvement, hein, le fonctionnement de la crypto-monnaie donc, repose en gros sur la technologie du blockchain, hein, technologie qui en fait veut dire littéralement la chaîne de blocs, hein, tout simplement. Et c'est vraiment le principe sur le fait que le fonctionnement repose justement sur quelque chose qui est infalsifiable. D'accord ? C'est-à-dire que quand tu as une transaction qui se fait, comme la date, l'heure, le montant, justement, du dernier achat qui a été fait en ligne, les informations qui participent finalement à cette. Les personnes qui participent à ces transactions, au lieu d'être, tu vois, sur un nom réel ou un proprement dit, on parle donc sur une signature numérique. Et du coup, grâce à cette signature numérique, ça crée un chaînon, si tu préfères. Et donc, du coup, ça permet du coup d'inscrire la transaction. Et une fois qu'elle est inscrite, elle n'est plus falsifiable, elle n'est plus modifiable. Et du coup, tout le monde a, entre guillemets, le livre de compte. C'est-à-dire que tous les gens qui ont du Bitcoin, par exemple, auront justement l'enregistrement de cette transaction. Ce qui fait que, du coup, le système est complètement décentralisé et donc, du coup, complètement infalsifiable. Parce que, du coup, quelqu'un qui viendrait s'insérer dans le système, bah, au final, il faudrait que tous les autres aient l'information aussi. Or, ça n'est pas possible. Donc, comme ça n'est pas possible, la transaction ne peut pas être considérée comme valable. Pour qu'une transaction soit valable, il faut qu'elle respecte l'ordre. Et cet ordre-là est infalsifiable. Tu t'imagines que là, il y a énormément de gens qui achètent des crypto-monnaies. Ça se passe en nanosecondes, les changements. C'est juste complètement impossible de pouvoir suivre l'opération pour être sûr que, justement, la transaction soit valable et vérifiée et vérifiable.